19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis auditeurs, c'est parti. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les soirs ici même dans Les Informés pour commenter, analyser, décrypter l'actualité. Oui, nous sommes en chambre jusqu'à 20h et à 20h évidemment, on va tenter pendant durant une heure, pas tenter non, commenter et confronter les points de vue. Alors au sommaire de cette émission, chers amis, ce soir, nous allons nous intéresser, vous savez quoi, à un débat où le sulfureux parfois, ça se passait au Sénat, au sein de cet hémicycle, on a parlé d'immigration et surtout, les Républicains qui ont décidé de dégainer Clochette. Eh oui, Gérald Darmanin, il n'a pas dit son dernier mot, Clochette. Quand je vous dis que c'est sulfureux, c'est bien sulfureux, c'est le mot. Les métiers en tension aussi connaissent quelques difficultés. Oui, les étrangers, paraît-il, sont pas forcément les bienvenus. Ça y est, la petite chanson commence à faire son cheminement, Clochette. Benjamin Netanyahou, je vous le présente plus, Clochette. Je dis Clochette parce que, bon, tout le monde lui demande un petit cessez-le-feu quand même, mon cher Benjamin Netanyahou. Alors, il estime qu'Israël, écoutez bien, assumera jusqu'au bout et pour une durée indéterminée la responsabilité générale de la sécurité à Gaza. Donc en gros, il vous dit clairement, il n'y aura pas de cessez-le-feu global à Gaza sans la libération des otages. Et bien tout à l'heure, on en parlera avec nos débatteurs puisque je voudrais connaître leur point de vue, notamment le grand retour. Qu'est-ce qui nous a manqué? L'ancien commandant de la police. À la vérité, je vous le dis en mille, Jean-Pierre Colombiès. Il rigole. Regardez, il rigole avec son sourire là. C'est un narquois.
Cynique.
Cynique, oui. Ça veut dire en gros, je vous aurai, c'est ça. Donnez-moi le micro tout à l'heure, je vais vous exploser. Voilà, je vous fais la traduction du commandant, l'ancien commandant de la police. Ensuite, on parlera de Raquel Garrido. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a été sanctionnée. Mais pas elle, franchement, Clochette. Alors, il paraît qu'à l'EFI, maintenant, il y a une espèce de guéguerre. Bon, bah, on va s'intéresser à ça. 4 mois de suspension. Hein. C'est beaucoup, 4 mois.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Le comité de salut public des LFI qui a,
on vous donnera le micro tout à l'heure, s'il vous plaît. Il peut pas s'en empêcher. Ça lui a manqué la radio.
On est starting block.
Hein. Le mec, il est là. Donnez-moi le micro. Je veux l'arracher. L'interview exceptionnelle de Jamel El Amri. On a réussi à l'avoir. Non, je rigole parce que vous savez quoi, Jamel, je l'aime bien. Il est islamologue, il est chercheur. Et il va nous parler de l'histoire de la France et des musulmans. Ça tombe bien, on est en plein conflit israélo-palestine. On va rappeler quand même la petite note historique. Hein, n'est-ce pas, Solal? Clochette? Les auditeurs ont la parole, ça vous le savez. Vous êtes vraiment, je dois le dire, très très nombreux chaque soir. Et vous savez quoi? C'est un vrai, je vous le dis clairement, chers amis auditeurs, un vrai plaisir. Vous êtes des millions à nous écouter partout en France, au 01 53 48 3000. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que vous n'hésitez pas à vous exprimer de façon libre d'abord. Vous remarquerez que c'est l'une des rares radios où vous venez vous exprimer de façon en toute liberté d'expression. Et en plus, vous livrez votre point de vue avec une analyse très fine. Et je vous en remercie infiniment, 01 53 48 3000. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. L'interview.
Ça va, Jean-Pierre Colombiès, hein. ça va. Je vais vous présenter. Jean-Pierre Colombiès, bonjour, bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs.
L'ancien commandant de la police. Ben, vous nous avez manqué, hein?
Ben ouais, vous aussi.
Ouais, c'est ça. Je sais pas, il a déserté le terrain.
Il a fait un repli sur moi-même.
Il s'est mis une introspection.
Il faisait une retraite spirituelle, il trouvait qu'il faisait
trop de BFM TV, trop d'LCI, trop de BRFM, trop de sous. Il s'est dit stop, j'arrête là, je me mets en trêve.
Il y a beaucoup de médias qui m'invitent pas.
Radouane Courac, journaliste, rédacteur en chef d'Opinion Internationale, bonjour.
Bonjour Adil, bonjour la France.
Directement, il arrive là. Bonjour la France. Faites comme certains là, attendez. Hein. Mena Douchenir, bonjour, ancien élu, comment ça va?
Bonjour Adil, bonjour à toutes et à
tous. Tout va bien?
Ça va très bien, merci.
Le président de Banlieue Plus qui est à vos côtés, Nadir Kaya, bonjour.
Bonjour Adil,
bonjour. Je n'ai pas fait exprès de vous inviter avec Jean-Pierre Colombiès, hein.
Mais non, mais c'est très bien, c'est très bien de discuter avec des policiers.
Vous allez voir, Allez, l'interview du jour, messieurs, tout de suite, c'est parti, jingle.
Je suis comédien.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Jamel El Amri. Bonjour Jamel El Amri.
Bonsoir.
Bonsoir, vous allez
bien?
Bonsoir
à vous.
Oui, très bien, et vous ?
Ben merci, merci. Vous êtes là parce que vous allez nous parler des musulmans dans l'histoire de France. Justement, ça tombe bien, vous savez, on a besoin de, voilà, de nous plonger dans l'histoire. Et puis surtout, vous faites demain une présentation de votre livre à la Grande Mosquée de Paris. Hein, on est d'accord, hein ?
Exactement.
Il reste encore quelques places, les auditeurs parisiens et banlieusards peuvent toujours se présenter ? Quand je dis banlieusards, attention, c'est pas péjoratif, dans ma bouche. Oui. Hein.
Ils sont plus que les bienvenus, donc c'est demain de 18h à 20h. L'entrée est libre, l'inscription est obligatoire et le lien est... il faut aller sur le site de la Grande Mosquée. Vous avez le lien, vous vous inscrivez et vous êtes les bienvenus demain à cette conférence.
Alors vous êtes historien, vous êtes islamologue, vous êtes chercheur, associé. Dites-moi, pourquoi cette rencontre justement ? Parce que vous avez envie de nous plonger. Pourquoi vous vouliez nous plonger justement dans l'histoire de France et des musulmans ? Ça tombe bien quand on voit évidemment le climat actuel. Peut-être qu'on a besoin de rappeler un certain nombre de choses.
Bah, je pense que c'est important de retrouver en fait les vertus de l'histoire. L'histoire, c'est le temps long, et ça permet de sortir un petit peu de l'immédiateté, des réponses, des polémiques, des réactions face à des événements malheureux, parfois qu'on provoque volontairement, et qui créent de la division entre les Français. Et quand on revient sur cette histoire, on se rend compte qu'effectivement, l'islam en tant que religion, en tant que civilisation, mais aussi les musulmans...
Qui est chargé d'histoire, hein, les jalonnés de plein de choses, hein.
Complètement, c'est plus de 13 siècles d'histoire
et
j'ose dire également que l'islam et les musulmans sont constitutifs de l'identité française. Alors une identité française qu'on nous présente bien évidemment comme figée, comme uniquement celle que certains vont nous raconter, des Zemmour, des Camus. Mais l'histoire de France, elle est beaucoup plus belle que ce que ces personnes-là veulent bien présenter. Et surtout, en tout cas, la dimension, la contribution, cette place, ces influences des musulmans, de l'islam dans l'histoire de France, c'est vraiment une histoire qu'on malheureusement on a trop mis de côté, qui est malheureusement restée un petit peu. Ces histoires-là sont restées à la marge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dans le monde universitaire, la recherche est là, les résultats de la recherche sont là. Malheureusement, au niveau de l'éducation nationale et au niveau médiatique et politique, ces connaissances scientifiques qui ont été démontrées, qui ont été validées par la recherche, malheureusement, ne sont trop peu connues des citoyens et sont trop peu connues au sein de la société française.
Est-ce que vous avez une explication, Jamel El Amari, justement, concernant là, quelque chose qui nous taraude tous, pourquoi il y a une telle méfiance à l'égard des musulmans quand vous faites référence à l'histoire de justement des musulmans de France et des musulmans dans l'histoire de France ?
Je crois que déjà, il y a ce que vous avez appelé, il y a une ignorance institutionnalisée, c'est-à-dire qu'effectivement, cette histoire, on ne la connaît pas. Donc, dans le meilleur des cas, on ne la connaît pas, et quand on la découvre, je peux vous dire une chose, c'est que ça a vraiment des vertus iconoclastes, ça fait tomber les images. Et plusieurs types de personnes qui ont assisté à mes conférences ont été un peu subjuguées par cette richesse de l'apport de l'islam et des musulmans au sein de la société française. La deuxième des choses, c'est qu'on a des gens qui aujourd'hui ont tout intérêt à ce que cette histoire ne soit pas connue. Parce que quand on connaît cette histoire-là, tout d'un coup, elle a aussi une vertu citoyenne, c'est qu'elle rassemble les Français autour de l'histoire de France. Et au moment où justement on cherche à créer des cloisons entre les Français, bah cette histoire-là, elle est gênante. Elle est gênante. Et il y a aussi...
Non, elle est gênante. Pourquoi Jamel El Amari ? Parce qu'elle a enrichi la France ? Elle a enrichi l'histoire de France ?
Elle est gênante parce que, si vous voulez, le roman national français, les grands livres d'histoire, c'est la Troisième République. C'est la fin du 19e, c'est la fin du 19e siècle. Et au moment où on écrit ce roman national, il y a un impact extrêmement positif, c'est-à-dire qu'on veut fédérer les Français qui appartiennent à différentes régions dans l'espace métropolitain pour faire France. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que pendant la Troisième République, la France a été aussi une puissance coloniale, a été aussi une puissance musulmane. Et donc vous avez tout un tas d'histoires qui ont fait l'histoire de France qui sont restées à la marge. Et normalement, eu égard à la diversité au sein de la société française, on devrait aborder les apports des musulmans, mais les apports des populations, de gens qui sont venus des Caraïbes, mais d'Afrique, d'Asie. Et au lieu d'ouvrir ce roman national à des histoires qu'on a laissées à la marge, malheureusement, on a aussi une tendance en France à se recroqueviller sur nous-mêmes et à être dans une histoire de France extrêmement rigide et donc extrêmement discriminante de toutes ces richesses.
Jamal El Amri, justement, votre livre nous plonge dans cette place singulière que vous appelez vous-même, les musulmans dans l'histoire de France, une place singulière. C'est quoi? C'est une plongée dans la période médiévale, moderne, contemporaine?
Oui,
c'est tout ça en même temps?
Complètement, ça commence avec les conquêtes musulmanes arabo-berbères dans le sud de la France, mais il y a aussi les colonies musulmanes du côté de Narbonne, du côté du Fraxinet, Saint-Tropez, Toulon, la Côte d'Azur actuelle. On a retrouvé des traces archéologiques, des bateaux en Méditerranée, on a retrouvé des corps du côté de des squelettes, du côté de Nîmes, du côté de Montpellier. Donc vous avez entre 720 et à peu près l'an 1000, vous avez à peu près 250 ans de présence musulmane.
Donc,
après on rentre.
Oui.
Et après, on rentre dans une période de croisade. Et cette période de croisade, elle est intéressante parce qu'elle montre effectivement toute l'ambivalence des relations entre la France, l'islam et les musulmans. Il y a la conquête, il y a les croisades, c'est violent, il y a des massacres, il y a des colonies qui appartiennent aux croisés dans le Proche-Orient. Et en même temps, c'est aussi, pendant ces deux siècles-là, de la fin du XIe jusqu'à la fin du XIIIe siècle, pendant les huit croisades, c'est aussi un moment où on traduit les ouvrages de science, les ouvrages de philosophie, de la langue arabe vers le latin. Et ce qui va être assez aussi remarquable au moment où on parle beaucoup de la question palestinienne en ce moment, le conflit israélo-palestinien, c'est qu'en Espagne andalouse, les ouvrages de science et de philosophie sont écrits en langue arabe, sont traduits en latin, le monde latin chrétien, et par l'intermédiaire de traducteurs juifs. Et tout ça, ça se passe en Europe, tout ça, ça se passe en Espagne, avec une espèce de convivencia et qui rend vraiment l'histoire extrêmement belle.
Alors c'est bien de nous préciser tout cela, parce que Jamal El Amri, votre livre, il faut aller se le procurer, il relate assez bien cette place singulière des musulmans dans l'histoire de France. On est d'accord. Donc rendez-vous finalement demain, ne pas manquer. Rappelez-nous donc l'horaire et cette rencontre avec vous demain à la Grande Mosquée de Paris.
Alors voilà, rendez-vous demain à la Grande Mosquée de Paris, la salle Émir Abdelkader. Donc la conférence commence à 18h jusqu'à 20h. Donc il y aura la présentation de l'ouvrage, il y aura une séance de dédicace. Et surtout, inscrivez-vous sur le site de la Grande Mosquée de Paris. Et je vous dis à demain pour partager un joli voyage historique ensemble.
Bravo Jamal El Amri, bravo à vous, islamologue,
beaucoup,
chercheur, historien, mais avec grand plaisir à écouter. Et demain surtout, chers amis auditeurs et auditrices, rendez-vous à ne pas manquer demain. Jamal El Amri, au plaisir de vous rencontrer, enfin ici sur le plateau.
Bientôt.
À très bientôt. Allez, c'est parti, on va marquer la pause et on se retrouve tout de suite. Bah oui, il faut une pause quand même.
Une pause s'impose.
Et vous allez vous emparer du micro. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face avec Jean-Pierre Colombès, avec Ménad Ouchenir, avec Redouane Kourak.
Absolument.
Oui, tu sais que j'ai eu un trou de mémoire.
Pourtant, je viens souvent, Adil.
Mais à un moment, il y a eu un. Voilà, un.
C'est l'âge.
Et Nadir Kaya. Allez, messieurs, tout de suite, je vous donne la parole, surtout à celui qui s'est absenté pendant longtemps, Jean-Pierre Colombiès. Qu'est-ce que vous dites sur la déclaration de Benjamin Netanyahou, qui estime qu'Israël assumera pour une durée indéterminée la responsabilité générale de la sécurité à Gaza et dit qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu?
Bon, je crois que c'est une situation particulièrement complexe, celle que nous connaissons. Bon, je regrette déjà par ailleurs que beaucoup essaient d'importer. Ils y arrivent malgré tout à importer le conflit israélo-palestinien en France. Et ça, je le regrette profondément. Je trouve qu'il y a des discours qui sont tenus qui sont particulièrement malsains. Je pourrais préciser ma pensée parce que je vois des tons dubitatifs à regarder.
Non, mais attendez, l'intérêt, c'est d'échanger justement.
Maintenant, on va être très clair. L'objectif de Bibi, qui est le surnom de Benjamin, c'est quoi? C'est de, sous l'impulsion du courant sioniste religieux, très fort dans son gouvernement, c'est tout simplement d'expulser tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à un élément palestinien du territoire local, quoi, de la Grande Palestine. Si on n'a pas compris ça, on peut continuer à regarder BFM en boucle. Mais l'idée, c'est ça. Il est poussé par des extrémistes qui veulent impérativement récupérer l'ensemble du territoire, pas que la bande de Gaza, et également l'ensemble de la Cisjordanie. Et je veux dire, l'idée, c'est de reconstituer une sorte d'Israël fantasmé, qui est l'Israël des temps glorieux de l'écriture de la Bible. Mm-hmm. Je vais pas le développer là. là-dessus parce que ça pourrait nous amener très loin. Parce que là, il s'agit d'un livre d'histoire avec un S à la fin du mot histoire et non pas d'un livre d'histoire réelle. La Bible n'est pas, ça n'est pas un acte de propriété. C'est un texte mythique, mystique. Le problème, c'est que dans ce gouvernement actuel en Israël, on se réfère à ça. Et c'est bien tout ce qui, je dirais, biaise le débat. Mmh. Et c'est ça que n'ont pas compris certains de nos politiciens. Et quand j'entends des déclarations du gouvernement qui font des propositions hallucinées, surréalistes, lunaires, comme celle d'Emmanuel Macron, je dis, ces gens-là ne connaissent pas la situation, ils n'ont tout simplement pas ouvert de livre d'histoire, et c'est bien dommage.
Alors, ce que vous dites, évidemment, ça va mériter un échange. Alors, qui veut prendre la parole ? D'abord Nadir Kaya, ensuite Mehena Douchener, et ensuite Redouane Kourak. Allez-y.
Très intéressant ce que je viens d'entendre, et je comprends pourquoi monsieur ne sera pas invité dans certaines chaînes, parce que ce discours-là me paraît assez clair, limpide, et construit, argumenté d'un point de vue historique. Je me souviens, Adil, la dernière fois, j'avais utilisé le terme sioniste. Dernièrement, en discutant avec des amis, voilà, on me dit, ouais, il faut faire attention à ce terme-là, mais il n'y a pas de honte à l'utiliser. Si déjà on ne veut pas l'utiliser, c'est qu'il y a une raison. Quand vous regardez la définition du sionisme, c'est une idéologie politique basée sur des éléments religieux. Tu te rappelles, Adil, on évoquait la chose parce que les gens disent, c'est un conflit politique. Pas du tout. C'est un conflit politique basé sur des éléments religieux. Le sionisme, c'est ça. Netanyahou.
Avec des intérêts sous-jacents, économico-stratégique.
Ah oui, non, mais les intérêts, on y trouve, parce que vous avez également des sionistes aux États-Unis, vous avez des catholiques et des chrétiens qui sont sionistes aussi, qui adhèrent à cette idéologie politique, et c'est pour ça que les États-Unis sont liés à Israël, notamment à sa création et à son soutien jusqu'à aujourd'hui. Vous disiez sur la fin que M. Macron apparemment ne connaissait pas réellement la situation, non. Aujourd'hui, à tous les niveaux, tous les gouvernements sont sachants sur la situation. Le problème, c'est que la plupart des grandes puissances qui nous font la morale aujourd'hui et qui ne parlent pas réellement d'un cessez-le-feu ou de paix, sont impliqués dans la création d'Israël. Donc ça pose des problématiques. La France a participé au programme nucléaire israélien, première chose. Et à la création d'Israël.
Et à l'armement de base.
Oui, l'armement, tout à fait. Les États-Unis sont le premier soutien d'Israël depuis toujours. Obama est le président qui a donné le plus d'argent à Israël. Même Trump n'a pas donné autant. L'Allemagne a fourni les premiers sous-marins. Vous avez toute une liste comme ça de pays qui aujourd'hui nous font la morale au niveau de l'ONU, mais qui sont impliqués. Et c'est pour ça que la situation est hyper complexe.
Des contradicteurs, parce que ce que vous avancez, c'est bien.
Je vais finir, parce que c'est compliqué pourquoi il n'y a pas de solution. Parce que si on regarde ces éléments-là, et à partir de là, on regarde le droit international, il s'avère qu'il y a des contradictions au niveau des États, de leurs propos et du droit international. Si on regarde le droit international, aujourd'hui, ce que fait Netanyahou et son armée, qui est qualifiée par l'ONU quand même d'armée d'occupation, elle est dans sa continuité. Oui. Donc Gaza, pour elle, c'est la continuité du grand Israël. Donc si on ne le voit pas en tant que simple observateur, c'est déjà compliqué.
Oui, allez, Mehena Douchener.
Moi, je regrette depuis le 7 octobre que tous les débats tournent en débats théologico-géopolitico-économiques.
Oui.
Alors que le point de départ du présent conflit, alors du présent je parle de manière très contemporaine, c'est l'attaque de civils, la prise d'otages de civils et le décès de très nombreux civils. Sciemment, je ne dis pas palestinien ou israélien, parce que le poids des vies n'est pas différent selon du côté de la frontière dans laquelle on se situe. Moi, c'est à eux que je pense. Et juste simplement pour recentrer sur la question que vous nous avez posée, non, je viens de le dire, c'est des civils. Pour moi, je pense aux civils.
Dire que ça commence le 7 octobre, historiquement, c'est complètement faux.
Le conflit tel que sur la question que nous a posée Adil à l'instant sur la sortie de Netanyahou, qui dit qu'il va assurer la sécurité de ce coin-là. Moi, la question est, en fait, ce que je veux, c'est revenir à la question et pas partir dans ces débats interminables, puisque eux, par contre, ont commencé non pas il y a 70 ans, mais il y a des centaines d'années. C'est dire, est-ce que cette décision-là de M. Netanyahou, elle va permettre de libérer plus facilement les otages, ou est-ce qu'elle va permettre d'aller vers un cessez-le-feu qui arrêtera de faire des victimes d'un côté comme de l'autre de la frontière? Je ne crois pas, et c'est pour ça que je pense qu'il a pris encore une fois une mauvaise décision, puisque rappelons-le, avant cette nouvelle hémorragie de violence, Netanyahou était fortement contesté, et quand je dis fortement,
il est toujours plus qu'avant dans
son pays, et j'ai aussi des observateurs, comme vous tous, vu des observateurs, y compris qui rapportaient des propos et des situations constatées au sein même de l'armée israélienne, mais aussi du peuple, mais aussi du gouvernement, des divergences d'opinion qui, elles, passent pas encore à la télé, mais à espérer qu'il soit suffisamment isolé un jour pour qu'on puisse le remplacer par quelqu'un qui soit dans le camp de la paix, ça c'est mon souhait, puisque effectivement il n'y a pas besoin d'être fort pour commencer une guerre, mais il y a besoin d'être fort pour l'arrêter. Et pour l'instant, je vois aucun homme fort capable de l'arrêter.
Après, il faut que je donne la parole à Radon Kourak.
Je tendance à observer le monde politique avec un œil très cynique. Parce que je pense que tout n'est que cynisme, malheureusement. Je pense que le poids des otages ne pèse pas grand-chose par rapport aux enjeux qui sont...
Et ben c'est de ça dont on devrait se soucier d'abord.
Ben oui, mais il faudrait poser la question surtout à M. Netanyahou. Pourquoi je dis ça ? Je dis parce que ça fait... On ne peut pas observer ce qui est en train de se passer sans faire un petit retour sur l'histoire. C'est impossible. L'histoire de la création d'Israël est avant tout basée...
Comme l'émission finit à 20h, on n'a pas le temps de faire
l'histoire. Eh ben oui, mais très vite. Mais alors,
on peut le faire très court.
On oublie, je vais faire très court. L'histoire de la création de l'État est basée sur du terrorisme. Pour ceux qui l'ont oublié, je veux dire, de 42 à 48, c'est quoi l'action de l'Irgun au niveau de cette portion de l'État ? Des attentats. Attentats contre l'hôtel du roi David, des dizaines de morts. Massacre de Deir Yassin, 1948. Moi, je veux bien qu'on oublie tout ça.
Mais je veux dire, j'ai pas dit qu'il fallait l'oublier.
Non, mais je veux dire, on parle du 7 octobre.
Et les assassinats à l'étranger de tous les opposants.
Par exemple.
Par le Mossad, les services secrets, on peut en parler
personne
aussi.
Personne ne peut justifier ou accepter la mort de civils innocents.
Jean-Pierre.
C'est clair.
Mais
je suis désolé. Heureusement. Ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large.
Radwan Korak.
Benjamin Netanyahou était un délinquant. Ça, ce n'était un secret pour personne. Pourquoi il a été écarté du pouvoir? Il a été poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation.
Mis en examen.
Délinquance, corruption. Oui, il a aussi été mis en examen, c'est vrai. Et aujourd'hui, Benjamin Netanyahou, en plus de cette casquette délinquante, est un criminel. C'est un criminel de guerre. Il doit être poursuivi devant un tribunal international. Il se sert de cet argument et je vais être très très clair, je le dis depuis plusieurs semaines sur cette antenne, le Hamas est une organisation terroriste. Mais il faut faire la différence aujourd'hui entre Hamas et population palestinienne. Benjamin Netanyahou, ce conflit et cette territorialisation l'arrange aujourd'hui. Il se sert de cet argument des otages du Hamas alors que je pense très sincèrement qu'il n'en a que faire et son objectif est d'étendre son influence et son territoire. C'est donc une stratégie plus que criminelle, puisque demain il y aura encore des victimes des deux côtés, palestiniennes comme israéliennes, mais surtout palestiniennes.
Qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre?
Oui, juste un petit rappel, je ne vais pas faire le professeur d'histoire, que je ne suis pas du reste, mais qui a créé le Hamas? Qui a financé le Hamas?
Le premier, c'est Israël.
On est bien d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé?
Contre le Fatah.
L'obsession des gouvernements israéliens.
C'était de faire tomber le parti du Fatah.
L'OLP,
qui a créé
Al-Qaïda
et ainsi de suite. On peut revenir à pas mal de choses.
Yasser Arafat, qui avait une philosophie laïque, et voire même marxiste, hein, quelque part.
Sa femme était chrétienne.
Voilà.
Il n'a jamais été un opposant religieux.
Mais si on veut être factuel, qui a voté pour le Hamas?
Pour déstabiliser l'OLP et diviser la classe politique locale, on a financé de manière occulte le Hamas. Donc quand on envoie une balle en l'air, des fois, elle vous retombe sur la gueule.
Non, mais c'est pour ça que je peux me permettre que les éléments historiques, et comme vous dites, on n'est pas des historiens, mais on est quand même des Français qui regardons un peu l'actualité,
qui
pour certains qui sont intéressés par le sujet, on observe. Et c'est vrai que la partie historique est très importante pour comprendre la situation et éventuellement le devenir. Donc revenir sur les éléments du 7 octobre, moi je veux bien. En tant qu'humain, être humain, on condamne effectivement tous ces massacres, mais ces massacres, ils sont aussi.
Alors justement,
une réponse à la colonisation.
Refuse le cessez-le-feu. Certains parlent de cauchemar à Gaza. Qu'est-ce qu'on peut dire, évidemment, de la situation sur la bande de Gaza? Messieurs, faisons un tour de table.
Si je peux me permettre, on est déjà à plus de 10 000 morts. Ce qui me fait rire, c'est qu'on dit oui, mais c'est une source du Hamas. Jusqu'à preuve du contraire, les sources qu'on a de l'autre côté israélien sont ceux de l'armée israélienne, qui est spécialiste en propagande. Donc, à un moment donné, soit on croit les deux, soit on croit personne.
Mais la Douchénière.
C'est que aujourd'hui, on a, ce que je disais en conclusion tout à l'heure, on a beaucoup d'hommes faibles qui démarrent des guerres, on n'en a pas de suffisamment forts pour les arrêter, et que la communauté internationale devrait se concentrer ses efforts à trouver d'un côté comme de l'autre des gens capables d'aller vers une désescalade. Alors c'est impossible, dans ce cas-là on remballe et on rentre arrêtez de dire que c'est impossible.
Une guerre démarre,
elle a un début, elle a un milieu, elle a une fin. Mais l'idée étant d'arriver à une fin qui soit la moins pénalisante, puisque celle-là a déjà emporté beaucoup trop de vies.
Israël depuis les années 60, c'est déjà plus de 50 résolutions, aucune n'a été mise en place. Donc déjà on le comprend.
S'il vous plaît,
l'Irak c'est une résolution. Moi si je peux me permettre, l'Irak c'est une résolution. Une invasion aujourd'hui, c'est 3,5 millions de morts. Ouais. On a oublié, ça passe à Israël, c'est plus de 50 résolutions. L'ONU a participé aussi à la création de l'État d'Israël. L'ONU a cautionné. La Palestine n'est pas responsable du génocide qu'il y a eu en Europe. Ce sont les Européens, de dire principalement allemands et pour la plupart catholiques, qui ont exterminé des autres Européens parce que juifs, il n'y avait pas que des juifs, il y avait aussi des homosexuels, il y avait des résistants, c'est un génocide entre Européens. Et
oui,
malheureusement, qui a bénéficié de cet héritage pourri jusqu'à aujourd'hui? Les Palestiniens. Alors, donc, tant qu'on ne répare pas, et on ne peut pas réparer une injustice, c'est impossible. C'est
Jean-Pierre Colombier.
On crée des injustices, on ne les répare pas.
Sans être partie prenante, on va être très clair.
On peut l'être.
Objectivement, qui possède la puissance militaire dans la région? C'est bien Israël, on est bien d'accord, qui en plus possède la la bombe atomique au passage. Oui. Donc s'il y a bien une puissance qui peut décider à un moment donné de mettre en place le contexte pour arrêter le massacre, c'est bien Israël.
Oui.
Je veux dire, non mais il faut à un moment donné, on a considéré lorsque l'État a été créé en 48, que c'était un peu comme les aborigènes en Australie, que les Palestiniens, les Arabes n'existaient pas. Donc on a installé, on a aidé à l'installation.
Comme les Indiens aux États-Unis qui sont aujourd'hui dans des réserves.
Non, je veux bien qu'il y ait une justification. Et là, je rejoindrai Plenel qui a dit une chose. Je ne suis pas toujours d'accord. Edwy Plenel, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que
le président fondateur
Mediapart dit, ce qu'il peut dire, mais il a dit une chose très vraie, qui est vraiment le cœur du débat. On ne peut pas, excuser un crime par une injustice. C'est pas possible. Il y a eu un crime, effectivement, comme ça a été dit, à l'encontre des populations juives en Europe, mais ça ne pouvait pas être aux dépens de l'injustice subie par les Palestiniens qui étaient là aussi et qu'on a purement et simplement éjecté. Et ça m'a été dit, non pas par des interlocuteurs occidentaux, ce que je suis en train de vous dire, mais par des historiens israéliens qui ont considéré que cette terre était la leur depuis que l'Ancien Testament avait été écrit et que le poids de cette discussion, dans cette discussion, le poids des Arabes palestiniens ne comptait pas. Purement et simplement. Et ça, c'est pas entendable, je suis désolé. Alors bien sûr, on se focalise sur le 7 octobre, on n'est pas là pour le justifier, il faut bien se mettre ça en tête. Il ne s'agit pas de faire l'apologie du meurtre d'innocents, il s'agit simplement de contextualiser et aujourd'hui de se dire, les seuls qui sont en position d'arrêter tout ça, c'est bien l'armée israélienne et surtout de mettre en cause Benjamin Netanyahou et ses prédécesseurs dans la manipulation faite au bénéfice du Hamas. Radouane.
Moi, je souscris pleinement à ce que vient de dire Jean-Pierre et je poursuivrai. Il faut insister, le Hamas est une organisation terroriste. Israël est une armée qui a beaucoup de défauts, il faut le dire.
Une armée d'occupation, selon l'ONU.
C'est quand même une armée équitable. C'est une armée équitable.
Pas du tout.
Non.
Équitable, sniper des enfants, des handicapés, des femmes, c'est pas équitable.
Il y a tout de même une nuance.
C'est une armée d'occupation.
Il y a tout de même une nuance. Je pense que Tsahal doit détruire le Hamas.
C'est impossible.
Il faut détruire le Hamas. Mais aujourd'hui, comme tu le dis, c'est impossible.
Je suis pas d'accord avec ce terme.
Il faut détruire le Hamas. Mais aujourd'hui, les premières victimes, encore une fois, ce sera la population. Depuis le 7 octobre, on le voit. La stratégie du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou de dire on s'attaque au Hamas, on se défend, on demande la libération des otages. Derrière se cache peut-être, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt finalement. C'est peut-être une stratégie d'extension du territoire et finalement de d'attaque sans. Sensible particulière.
Je pense que le monsieur est encore un peu jeune, mais on peut tous condamner les agissements du Hamas.
Des études quand même.
Le Hamas, on l'a rappelé, c'est intéressant parce que quand ils ont été élus démocratiquement, c'est aussi un élément historique, c'est quand même bien de le rappeler, qu'ils aient eu des postures terroristes barbares. Moi déjà en tant que musulman, je le condamne parce qu'un musulman ne peut pas se comporter comme ça, même face à une résistance.
Quel rapport?
Ben rappeler que simplement le Hamas ce sont des Palestiniens parce que aujourd'hui le discours
non, le
de
Hamas,
certains
c'est
de
dire que
ce ne sont même plus des Palestiniens, ce sont des terroristes, et ils ont commis un crime barbare. C'est trop facile à dire comme ça.
D'une phrase parce que je vais lancer la pause.
Attention, les terroristes de la veille sont parfois les gouvernants d'aujourd'hui. Remember, monsieur Begin.
Les victimes d'hier peuvent être les criminels d'aujourd'hui.
Begin qui était membre de l'Irgun, qui a participé à des massacres et qui est devenu
chef de l'État. Je lance la pause, pardonnez-moi. Je lance
la pause. Et on se retrouve dans une poignée de minutes, messieurs. Surtout restez avec nous, ne bougez pas. Et les heures 1:53, 48, 3 minutes. On va parler de cette fameuse, vous savez quoi, loi immigration. Les principaux métiers, les métiers en tension et puis surtout les débats sulfureux au sein de l'hémicycle. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Il est 19h40, les informés avec Jean-Pierre Colombiès, Radouane Courac, Mena Douchenir et enfin Nadir Kaya. Tiens, je vais recevoir quelques auditeurs. C'est parti, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
On a ce besoin d'échanger avec nos auditeurs qui nous appellent de partout. Abdel, vous nous appelez du 60. Quelle ville du 60, Abdel? Bonsoir.
Cray. Oui, bonsoir Adil, j'appelle de Nogent-sur-Oise.
Bienvenue, presque. On vous écoute mon cher Abdel, allez-y.
Alors, moi, je rentrais tranquillement du boulot, mais sincèrement, j'ai bondi de mon fauteuil dans ma voiture quand j'ai entendu un de vos invités, là, vous m'excuserez, j'ai pas retenu le nom.
Ménad Douchenir.
Ouais, qui a parlé d'armée équitable.
Non, c'est pas lui. C'est Radouane. C'est le petit jeune.
Ça, c'est de l'injustice.
Allez-y, il vous écoute. Évidemment, il vous répondra. On vous écoute.
Sinon, je raccroche. Laissez-moi au moins parler.
Je vous ai dit, allez-y.
Voilà, merci, Adil. On parle d'armée qui tape. Mais sincèrement, comment aujourd'hui on peut comparer une armée xénophobe, raciste, qui jette des bombes de 250 kilos pour tuer un mec du Hamas sur une densité de population aussi grande que sur la ville de Gaza? On peut parler d'armée équitable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler d'armée équitable. Ce n'est pas normal. Vous dites ça normalement comme si on parlait de comme si on allait tuer des terroristes en Syrie ou quelque part où il n'y a pas toute cette population civile aux alentours. Non, je suis désolé, mais soit vous avez fait une erreur et que vous revenez sur vos propos, mais vous ne pouvez pas comparer l'armée de Tsahal à une armée équitable.
Alors, mon cher Abdel, attendez, Abdel, ça vous a fait, j'ai bien compris, ça vous a fait bondir. Eh bien, Radon Kourak vous répond.
Alors, je m'excuse pour une chose. Si ça vous a fait bondir, Abdel, j'espère que vous ne vous êtes pas cogné, mais je ne retire pas mes propos. C'est des propos qui sont parfaitement assumés et qui sont vérifiés et vérifiables. Là, on compare par rapport à quoi? On compare par rapport au Hamas. Le Hamas, c'est des terroristes, monsieur.
Monsieur, excusez-moi, en face, vous avez des mecs du Hamas qui sont cachés dans la population et vous avez une armée qui est armée, voilà, qui porte bien son nom, elle est armée.
Le 6 juin 44,
surarmée.
Quand vous jetez des bombes de 250 kilos sur un camp de réfugiés, vous savez pertinemment que vous allez tuer 100 civils pour un mec du Hamas. Ça, je suis désolé, mais aucun haut gradé de l'armée de tous les pays du monde ne vous dira que ça, c'est une armée légale, loyale et qui respecte le droit international. Ça n'existe pas.
C'est bombardé comme ça.
C'est l'armée d'un État de droit. Moi, je ne me réjouis jamais de la mort d'un être humain, pas même d'un terroriste. Vous savez, moi, je pense que la vie est quelque chose de précieux. Or là, on s'engage dans une guerre. Israël est un État souverain qui se fait attaquer. Imaginez qu'une base terroriste venait attaquer la France.
Israël ne se fait pas attaquer. Israël fait face à une résistance. C'est pas la même chose. La qualification d'une guerre, c'est entre deux armées. La qualification d'une guerre, c'est entre deux armées. L'Ukraine, la Russie, c'est une guerre. Même si c'est une invasion de la Russie, c'est une guerre.
On n'a pas d'armée en face.
On ne s'entend plus. Vraiment. Abdel, qu'est-ce que vous voulez dire avant de passer évidemment.
Je suis désolé. On peut parler d'armée.
Vous vouliez les auditeurs
révolutionnels.
Quand on est dans une guerre conventionnelle, quand on a une armée en face, là, il n'y a pas de problème. Mais là,
attendez, s'il vous plaît, il faut que j'avance. Non, vraiment, parce qu'on a pas mal de coutumes, Abdel.
On les prive Abdel, d'eau, Abdel. On les prive de nourriture et on parle de l'eau d'armée.
En tout cas, Abdel, regardez.
Mais le Hamas, c'est la branche armée d'un parti qui a été mis au pouvoir par les Palestiniens.
Abdel,
il faut le dire.
Merci pour votre point de vue. Vous l'avez exprimé. Vous avez échangé. Il faut que je passe aux autres auditeurs. Merci, Abdel. Et revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Nassera qui nous appelle du 78. Bonsoir, Nassera.
Bonsoir tout le monde.
De quelle ville, Nassera?
Saint-Germain.
De Trielle-sur-Seine.
Trielle-sur-Seine, pas très loin. On vous écoute.
Bon. Ouais. Écoutez, moi je rejoins à 200% Adèle, le précédent intervenant.
Abdel.
Je trouve ces propos inadmissibles. On a d'un côté une armée surarmée. Et en face, il y a un groupe de résistance. Je rappelle quand même que le droit international, il consacre le droit à s'opposer et à combattre la colonisation par tous les moyens, y compris
c'est un droit,
armé.
Donc, le terrorisme est un droit du...
Le droit.
Le terrorisme est un droit, madame, oui ou non?
Non, la résistance.
Le droit
non,
de c'est se du défendre. La résistance et de se défendre. Si vous ne comprenez pas, je ne peux rien faire pour vous, monsieur.
Vous interprétez.
Il faut lire les textes. Donc, les textes, ils disent que quand on est colonisé ou envahi, on a le droit de se défendre.
C'est la branche armée du Hamas. Qui a mis au pouvoir le Hamas?
Y compris par les moyens armée.
On n'est pas là pour vous mettre d'accord. De toute façon, Nasera.
Non, mais il ne s'agit pas d'être heureusement
qu'il y a une résistance à l'armée, parce que j'ai jamais vu une résistance
avec des tout ça face à
Excusez-moi, Adil, je voulais juste dire, il ne s'agit pas d'un point de vue, il s'agit du droit international qui écrit noir sur blanc, et il faut aller voir les textes de l'ONU, qui dit qu'un peuple a le droit de résister, y compris par les armes, à la colonisation. Ce n'est ni mon avis,
vous auriez dit ça le 6 juin 44 lors du débarquement de Normandie, je le dis depuis
tout à l'heure. C'est la loi.
Merci Nasera d'être intervenu. Voilà. Nasera, il faut qu'on avance. Merci d'être intervenu sur l'antenne des informés sur Beurre FM. Merci infiniment. On a pas mal d'auditeurs. Alors, qu'est-ce que vous dites-vous?
Non, mais moi, je dis que le Hamas est certes une organisation de résistance, je ne sais quoi, mais ce sont des terroristes. Et les terroristes ne font pas la résistance. Au contraire, en plus, les premières victimes de ces terroristes, ce seront les Palestiniens. Ce seront les victimes de Tsahal, certainement. Mais
c'est quoi
aussi
la qualification du terme terroriste?
On avance,
pour regarder la définition.
On avance.
L'armée israélienne commet des actes de terrorisme.
C'est une armée équitable.
S'il vous plaît, on avance. Allez, je vois. Avant d'arriver au terme de cette émission,
charitable aussi,
je voudrais qu'on parle de la loi immigration, s'il vous plaît. Le Sénat qui vote l'instauration de quotas et durcit donc tout cela. Une majorité complètement fissurée, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous retenez de ce débat sulfureux à la fois au sein de cet hémicycle Sénat, mais surtout, le Sénat poursuit ce qu'on appelle le durcissement du projet immigration.
C'est la preuve de la vacuité du débat politique français. Voilà.
Merci.
Donc tout simplement, on ne sait pas comment gérer ces sujets-là. Donc on colle des bons vieux quotas à la papa sur des métiers en tension qu'on ne sait pas trop définir, parce que finalement les vrais métiers en tension, c'est ceux où il y a aujourd'hui des gens en situation irrégulière. Mais du coup, comme les postes sont occupés, on ne va pas les décréter comme étant en tension. Donc quelqu'un disait qu'on avait la droite la plus bête du monde. Elle vient encore de le prouver avec une loi qui va être dépecée et vidée de sa substance. On va se retrouver avec une énième loi immigration qui va un peu faire plaisir à des gens très très à droite. Mais je rassure LR, ces gens-là ne voteront pas pour vous ni aux prochaines présidentielles ni aux prochaines législatives. Ils préfèrent l'original à la copie.
Mais la préoccupation première des Français aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat, mais aussi l'immigration. Il y a une demande.
L'immigration n'est pas dans les trois premiers.
L'immigration, c'est quoi l'immigration?
Non, mais on le voit, ne soyons pas dupes. Le vote RN, le vote en faveur de Reconquête, c'est des votes qui sont alimentés par quoi? Par des problématiques de pouvoir d'achat, mais surtout par des problématiques d'immigration.
Ils sont alimentés par
des sujets qui font peur et qui alimentent les gens bien colombiens.
Il y a un problème avec l'immigration dans ce pays.
Ils sont alimentés par plein de choses.
Il vous dit qu'il y a un problème avec l'immigration dans ce pays. Jean-Pierre Colombier. Et ensuite, Nadir Kaya. Alors Jean-Pierre,
d'un point de vue global, moi je dirais que il y a un problème effectivement avec l'immigration, mais l'immigration que moi je considère comme parasitaire, ce qui n'est pas la même qu'avec celle qui effectivement occupe certains postes
dont
les Français nationaux ne veulent plus. Alors effectivement il y a un souci parce qu'on a Darmanin nous a sorti une darminade une fois de plus. Moi j'aime bien le qualifier, ces fulgurances de darminade.
Comment on définit la darminade?
La darminade, c'est une formule qui est purement personnelle et qui en fait est inapplicable, puisqu'il veut par exemple mettre l'action économique, il veut suspendre l'action économique des sociétés employant des personnels en situation irrégulière. Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de boulangeries, beaucoup de restaurants qui vont se retrouver fermés du jour au lendemain.
Mais pas que, dans les beaux quartiers, il y a des nounous.
J'ai connu,
peux donner des endroits exacts. Des ministères où il y a des personnes issues de l'immigration.
J'ai travaillé 3 ans à Neuilly-sur-Seine, au commissariat de Neuilly-sur-Seine.
Très bien.
Je peux vous en parler en connaissance.
Il y en a pas mal là-bas.
Puisque dans toutes les chambres de bonne de Neuilly-sur-Seine, dans beaucoup de chambres de bonne, il y avait des immigrés de toute nationalité, beaucoup de Philippins, beaucoup de personnes de l'Est. Qui était en situation irrégulière et qui travaillait pour des personnes qui venaient après me dire au commissariat, vous comprenez, tous ces étrangers irrégulière, faut les virer. Sauf que c'était
cela. Il y a une vraie hypocrisie énorme.
Attention, moi je fais une mise en garde. Attention, parce que ça c'est le faux nez, c'est le nez rouge. Alors, effectivement, il y a des intérêts électoralistes parce que ça fait plaisir à 70% de la population.
C'est que ça.
Mais attention, parce que je sais plus ce que je voulais dire.
Voilà, vous m'avez coupé. C'est un faux problème. Vous voulez dire que c'est un faux problème et que LR, encore une fois, va dans un débat qui n'est pas le sien
L'immigration, c'est un vrai problème. Mais la façon.
C'est un problème.
Si je me permets, le sujet de l'immigration, c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, face à l'immigration qui vient de partout, parce qu'il y a des pays qui sont déstabilisés, donc automatiquement, vous avez une population qui vient dans le nord et notamment dans les pays d'Europe pour trouver de la dignité du travail, ça effectivement, on a parlé d'hypocrisie. et on a évoqué le fait que notamment dans certains beaux quartiers ou dans certains ministères on utilise cette immigration là illégale comme illégale.
Ah, si, monsieur,
mais le vrai sujet sur l'immigration, bon là on a parlé de Ciotti et de son parti. Son parti qui surfe sur l'opinion publique et qui est défavorable,
qui, rappelons-le, était prêt à voter le texte en 2021.
Oui oui, et qui est défavorable à l'immigration et à tout type d'immigration, parce qu'aujourd'hui l'immigration est stigmatisée et c'est un peu comme les banlieues, l'islam, c'est des sujets qui automatiquement génèrent de la peur et parfois de la haine. Donc on met ça en avant parce que les Français sont aussi friands ça, et quelque part on leur fait croire qu'on va résoudre le problème. Mais le problème, c'est que c'est l'Europe. À un moment donné, la France, faut que elle soit souveraine de ses décisions et de ses sujets au niveau national.
Deux mots. Je rappelle simplement ce que disait Georges Marchais, qu'on peut pas taxer de, qui disait à l'époque, attention à l'immigration massive qui vient nourrir, je dirais, des sociétés qui ne veulent pas augmenter les salaires. Je dis attention parce que cette immigration-là va fournir un prolétariat.
La problématique aujourd'hui, c'est que les Français veulent travailler dans des conditions dignes. Et aujourd'hui, la problématique est bien payée dans la dignité et avec des métiers bien payés.
Merci messieurs, merci à Jean-Pierre Colombès. Vous reviendrez ?
Oui, avec plaisir.
Grand plaisir partagé, sachez-le. Merci à Redouane Koura qui a provoqué le débat ce soir. Merci à Menalou Chénir. Merci à Nadir Kaya. Merci à Solal à la réalisation. Bilal Lendman, Time Sport, 21h, justement 23h. C'est Vanessa. À demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.